Bonjour, bienvenue sur la chronique Le Bit et le Couteau du Tétalab. Donc aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, il y a moi et Alex.
Salut.
Coralie nous a lâchement laissé tomber, donc shame on you, Coralie. Et Stéphane, on ne peut jamais lui faire confiance, donc il n'est pas là. Donc j'espère que ça ne va pas être trop folklorique. On va essayer de s'en sortir.
On rappelle
donc déjà, on rappelle le pad.
Le pad, ouais, vous pouvez aller sur canalsud.tetalab.org pour participer à l'émission, poser vos questions, si vous voyez qu'il y a des blancs, rajouter des sujets à nous apporter.
Donc en fait, un pad, pour ceux qui sont nouveaux, c'est un traitement de texte en ligne, un peu comme Wikipédia. Donc si vous arrivez sur une page blanche, eh ben, vous pouvez rajouter du texte et les gens rajoutent du texte en même temps. C'est interactif, c'est génial. Donc, comme d'habitude, on va faire une partie actu, un dossier, et puis après, on reviendra sur l'agenda. Donc, on va commencer l'actu. Donc, toi, tu avais nous parler de...
Voilà, en actu, juste la dernière émission, le mois dernier, il y avait un article qui venait de sortir sur Rue 89 par rapport à NKM. Alors, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, c'était juste avant tout ce qui s'est passé à l'UMP durant ce mois-ci. donc, NKM, pas trop Internet, c'est le nom de l'article.
Mais de toute façon, il n'y a aucun politique qui aime Internet, quoi.
Oui, voilà.
Enfin, qui connaît Internet, quoi. On dirait mes grands-parents à chaque fois, quoi. Quand tu leur apprenais à servir la fonction Showview sur le magnétoscope, t'étais gamin. C'est celle qui avait fait Adopi, qu'est-ce qu'elle avait sorti là? C'était qui déjà?
Le
pare-feu Open Office.
Ouais. Alors,
je sais pas comment ça s'appelle.
Enfin,
Albanel. Ouais.
Donc Nathalie Kosciusko-Morizet qui a sorti une grande idée à la suite de l'affaire Mera, c'était d'interdire la consultation des sites internet terroristes. Avec tout plein de bonnes idées à l'intérieur. Donc, en gros, c'est toute personne qui consultera de manière habituelle les sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence sera punie pénalement.
Ouais, mais ça veut dire quoi habituel?
Voilà,
ça veut dire une fois par mois, c'est bon.
Ça veut dire quoi habituel? Ça veut dire quoi si un pote.
C'est n'importe quoi.
Si un pote t'envoie une vidéo de soldat qui se fait décapiter, que tu cliques dessus, est-ce que tu deviens terroriste? Et,
ouais.
S'il y a des sites qui sont surveillés et que, par exemple, c'est des forums avec des zones normales sur le forum et d'autres zones un peu plus chaudes, qui se fait pénaliser.
Et comment ils savent que c'est toi derrière le PC? Quand tu changes de PC ou quand tu es sur ton mobile, donc t'as pas la même adresse IP?
Tout plein de grandes questions qui n'ont même pas réussi à répondre avec
Adopi.
Ouais,
c'est encore une idée débile.
Donc, en gros, c'est toujours dans l'idée de pouvoir faire peur avec Internet. Donc, tous les petits vieux qui ne savent pas quoi ça serve, forcément, ça leur fait peur.
Ouais, il n'était pas arrivé à rentrer des gamins dedans, dans son idée, en disant qu'il y avait des gamins qui regardaient des décapitations sur leur mobile. Ouais, elle a dû y arriver.
Et après, c'est toujours...
Quand il y a des gamins, on justifie vachement vite, quoi, les pauvres gamins, les pauvres bouts de chou.
C'est toujours un des...
Ça fait bonne presse, oui.
Un des piliers du contrôle d'Internet avec la pédopornographie,
le terrorisme. S'il arrive à caser la pédophilie, c'est carton plein. Ou des nazis, peut-être, aussi.
Voilà, donc là, avec l'affaire Mera, c'était plus facile de mettre du terrorisme, comme sûrement Mera utilisait Internet, bien qu'il n'ait pas eu de compte Facebook. Donc il devait sûrement se renseigner sur des sites de ce genre, et avec l'aide de Nathalie Kosciusko-Morizet, on aurait pu savoir dès le début que si c'est quelqu'un de pas bien.
Ouais, et puis comme d'habitude, notre credo, quoi, c'est la neutralité du net, donc ça voudrait dire qu'on mettrait en place du DPI. Donc petit rappel sur le DPI, le Deep Package Inspection, et en gros, pour résumer, c'est comme si le facteur... avant de nous remettre le courrier, ouvrez le courrier, lisez ce qu'il y avait dedans pour savoir si c'était bien les lettres qu'on reçoit et machin ou qu'on envoie, et entamer une action. Donc là, c'est automatisé par des robots ou des gens derrière,
voilà.
Mais bon, ça revient au même, quoi.
Bon, en se rappelant que tous les mails qu'on envoie sont des cartes postales un peu sur Internet, donc il n'y a pas de pas besoin de DPI pour l'instant.
Ouais, comme Google qui regarde ce qu'on envoie pour nous cibler les pubs, quoi.
Exactement.
Ouais. Ok, donc elle a sorti n'importe quoi. Bon, ensuite. Oui.
Vas-y.
Oui, c'est juste une histoire un peu triste, comme d'habitude avec Adopi, tout ça. Donc sauf là, c'est en Finlande. Alors en Finlande, il y a le CIAPC, c'est le Copyright Information and Anti-Piracy Center, c'est l'équivalent de l'Adopi français, quoi. Et en fait, eux, ils avaient eu déjà des faits d'armes assez glorieux, donc ils avaient saisi 10 teraoctets de fichiers pirates. Ils avaient neutralisé un cinéma pirate. Et surtout, ils étaient arrivés à entamer un blocage de Pirate Bay. Pirate Bay, qui est un gros site de torrent.
Qui n'est pas finlandais.
Si, c'est
finlandais.
Ouais, mais je crois qu'ils ont...
Non, c'est suédois, Pirate Bay.
Alors, ils ont peut-être bloqué les serveurs en Finlande. Ou ils ont bloqué l'accès à Pirate Bay depuis la Finlande. Enfin, bref. Donc, dans leur recherche acharnée des pirates, et en fait, ils ont détecté... une tentative de téléchargement de l'album Koen Vallijstoen de Chisu, une chanteuse néerlandaise qui a un nom de volcan, quoi. Et comme Adopi, ils ont envoyé au titulaire de la ligne une demande, quoi. Ils lui ont demandé, écoutez, soit vous nous donnez 600 € et vous signez un accord de confidentialité, sinon on va en justice. Et la personne responsable de la ligne, un père de famille, il a dit non, il n'y a pas moyen, parce que en fait, sa fille voulait télécharger l'album, sa fille de 9 ans voulait télécharger l'album de cet artiste, et parce que bon, elle n'avait pas elle de sous pour se l'acheter elle-même, mais en fait le téléchargement a planté, et donc après le père de famille a acheté carrément l'album à sa fille. Mais comme le CAPC, ils ont vu le refus, et ben ils sont montés ça dans justice, et il y a eu une descente de flics chez la gamine. Et en fait, c'est là où ils se sont rendus compte que c'était une gamine. Et bon, ils ont dit, bon, faut bien réquisitionner. Donc, ils lui ont réquisitionné son portable Winnie. Donc, bon,
ils sont repris.
Et donc là, bon, ben, vu que ça fait, vu le portable Winnie, c'est un peu ridicule, donc là, bon, ils se sont un petit peu rendu compte de leur erreur, donc ils ont rendu le portable Winnie à la fillette, la pauvre.
Ah, quand même.
Et oui, parce qu'en plus, le père de famille avait acheté l'album, quoi. Et et en plus, l'artiste a été un peu dégoûtée parce qu'elle lui a fait mauvaise presse. Elle a dit, bah, écoutez, elle pouvait même aller, si vous voulez, vous pouvez aller sur Spotify, plateforme légale, où vous l'écoutez gratuitement, quoi.
Attends, tu parlais qu'il lui avait demandé de l'argent.
Ouais.
Ça se fait, mais c'est pas une amende.
Non. Alors, ouais, ils ont envoyé une lettre lui demandant à verser 600 € et signer un accord de confidentialité pour éviter de se frotter à la justice.
D'accord. Donc tu après, payes 600 € ou alors tu vas au tribunal.
Ouais, voilà. Donc c'est soit c'est à l'amiable, soit voilà, là-bas ils sont peut-être bêtes un peu moins ce qu'ils avaient adopté, je suppose. Donc voilà, oui, et dans la même veine, c'était quoi? Oui, c'est ce que j'avais lu, il y a Superman, les premiers épisodes de Superman qui sont tombés dans le domaine public, donc 41, donc rapide calcul, ça fait 70 ans.
Ça fait 70 ans.
Donc ils sont dans le domaine public et comment ça s'appelle? C'est la Warner. Elle a fait les choses clean, elle a remasterisé les épisodes, elle les a mis directement sur YouTube. Donc pour une fois, c'est
les
pas mal.
Premiers, ouais. Ils ont sorti des DVD l'année dernière, juste avant que ça tombe.
Oui, on va en profiter quand même. Donc ce qui est bien, c'est parce que d'une, on peut les copier, les regarder, tout ça. Bon, ça aurait empêché personne de les regarder. Je pense qu'ils devaient déjà être sur YouTube. Mais les gens vont pouvoir détourner ces épisodes et en faire un autre contenu, quoi. Toute création, elle se nourrit d'autres créations, quoi.
Et on va pas se priver.
Voilà. Et donc, ce que tu me disais tout à l'heure, ouais, Disney, bientôt, Mickey tombe dans le domaine public.
Et bien, bientôt,
ça,
ouais.
Ça va être génial. Ça va être...
Ça va être mortel.
Et donc, ouais, sur ce truc, donc, c'est un peu compliqué, le droit d'auteur. Donc, j'ai un peu regardé sur Wikipédia le droit d'auteur. Donc, petit historique sur le droit d'auteur. Donc, en fait, ouais, le droit d'auteur, il est intimement lié, en fait, à... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle, le gars qui a inventé l'imprimerie, là? Gutenberg. Qui, quand il a sorti l'imprimerie, on a pu reproduire facilement des livres. Alors qu'avant, le droit d'auteur, il se posait pas trop la question, puisque un livre s'était fait à la main, donc il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Il n'y avait pas de piratage, ça coûtait super cher de pirater un livre. Les artistes, les troubadours, c'est eux qui... Il n'y avait pas de reproduction sonore, donc il n'y avait pas de problème de copie non plus. Et donc c'est à ce moment-là... qui a commencé à avoir des droits d'auteur et souvent lié à ce qu'on appelait la patente à l'époque, c'était d'assurer un monopole pour des corps de métier, donc je sais pas, cordonnier, chauffeur, tout ça, et donc il y avait aussi le sur les éditeurs de livres, il y avait un monopole. Et en fait, c'est arrivé surtout avec le retour de la monarchie en Angleterre, où il y avait ce qu'ils ont appelé le Statue of Anne, où en fait il y avait la guilde des éditeurs imprimeurs de Londres, qui en fait ont obtenu le droit que pendant 14 ans, en fait, chaque livre ne puisse pas être copié du moment de la première édition. Et au bout de 14 ans, il y avait une dérogation pour que ça soit reporté de 21 ans. Mais après ça, ben, tout le monde pouvait copier un livre sans problème. Quoi.
Et on est en quelle année là ?
On était en 1709.
D'accord.
Appliqué à compter du 10 avril 1710. Quoi.
J'ai appris un bon truc aujourd'hui sur l'imprimante Gutenberg, ouais. Où en gros, ça s'est répandu de par son interdiction. Donc ouais. Je crois que ça a été fait en Allemagne, enfin ce qui s'appelle l'Allemagne maintenant, et l'Église interdisait les imprimantes dans certains comtés. Et donc, pour continuer à faire des livres, il déplaçait l'imprimante, il la mettait dans le comté d'à côté. Et ainsi de suite, il l'a déplacée jusqu'à ce que. Enfin, quand le comté interdisait l'utilisation de cette ouais. imprimante, il l'a déplacée à côté. Et comme ça, elle se répandait un peu partout dans le pays.
Ah ouais, un réseau E2E.
Voilà, l'interdiction a permis la propagation de l'utilisation de l'imprimerie.
Ok.
C'était intéressant comme approche.
Et en fait, au même moment, en fait, il y a Voltaire qui, lui, en fait, était contre ce nouveau droit d'auteur, parce qu'il a dit, en fait, moi, toutes ces contrefaçons de mes œuvres, ben, ça m'apporte une notoriété. Donc le mec était super en avance sur son temps, et même actuellement, il est encore en avance sur son temps, quoi. Ensuite, ouais, en France, en 1777, il y a Beaumarchais qui fonde la première société d'auteurs pour, justement, reconnaître les droits au profit des auteurs. Et donc, lui, en fait, il va d'abord rentrer en guerre avec la Comédie Française, qui, en fait, eux, ils reprennent des pièces de théâtre et ils redonnent pas de sous aux auteurs. Donc, il y a un premier conflit sur celui-là. Et donc, ensuite, il y a la Révolution française qui arrive. Et là, il est décidé que les auteurs auraient le droit exclusif d'autoriser la reproduction pendant toute leur vie. Et ensuite, les héritiers, ils auraient juste une durée de 5 ans. Alors que apparemment maintenant, c'est la vie de l'auteur plus 150 ans. Je crois que c'est à partir depuis 1997. Alors après, il faut voir, il y a auteur et groupe, quoi. Donc, mettons ouais. un film...
Pour les œuvres collectives.
Un film, c'est pas les mêmes, puisque ça appartient à la société de production. Et en général, les acteurs cèdent leurs droits au moment où ils font le film. Alors qu'un livre, c'est pas la même chose, c'est un droit d'auteur. Enfin bref, c'est super compliqué. Et ensuite, après, c'est à ce moment-là où ça s'est internationalisé. Et là, il y a Balzac qui est arrivé, donc que des gens connus, quoi. Et lui, en fait, il va fonder la Société des gens de lettres, qui existe d'ailleurs toujours. Et il va avoir le premier accord international avec la Belgique. Et on arrive enfin sur la Convention de Berne de 1896, qui a le fond de, en fait, le droit d'auteur qu'on a actuellement. Où en fait, le droit d'auteur, mettons en France, c'est la vie de l'auteur plus 70 ans, on va dire, et ben ça va s'appliquer dans tous les autres pays.
D'accord.
Et aux États-Unis, mettons, je dis une connerie, hein, c'est 50 ans, la vie de l'auteur plus 50 ans, on va dire, ben ça s'appliquera aussi en France, quoi. Et donc là, au fur et à mesure, en fait, des années, ils ont agrandi l'échelle de temps de droit d'auteur. Il y a Disney qui s'en est mêlé. Donc vite avec Disney, ça a été 70 ans. Et maintenant, depuis 2007, au niveau international, en gros, c'est 150 ans quand c'est une œuvre collective et 70 ans après la mort de l'auteur. Donc ouais, c'est assez aussi par rapport à Disney qui a vachement voulu se protéger à ce niveau-là. C'est assez paradoxal parce que Disney, ils ont fait leur beurre sur des contes, les contes de Perrault. Je pense à même leur dernier là, je l'ai pas vu moi. Les mondes de Ralph qui est adapté des mondes des jeux vidéo. Des extraits que j'ai pu en voir, on a des personnages de
Il y a Kubert,
il y a Street Fighter. Alors, je sais pas s'ils ont payé les droits ou s'ils ont repris.
Ou ils ont racheté les sociétés, tout simplement.
Ouais,
je sais
ouais,
pas.
Quand même, racheter Capcom et tout, ça va leur coûter cher.
C'était pas dans la licence de Star Wars
Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là, il y a la licence Star Wars. Je sais pas si ça va être bien ça, mais bon, on verra bien.
Peut-être avec Justin Bieber qui sera dans le prochain épisode de Star Wars.
Ouais, Justin Bieber. Oui, donc Disney, c'est un peu du foutage de gueule parce qu'ils sont, ils ont fait leur premier succès, même tous les succès qu'ils ont eu, ça a été sur réadapter des contes. Mais nous, on n'a pas le droit de réadapter les Disney tels qu'ils ont été faits par Disney, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était l'aparté sur le droit d'auteur. Donc ensuite, on a...
On a le temps encore. Alors, on a parlé un peu de l'Allemagne, où normalement, donc on en reparlera de l'agenda, mais j'attendais le programme du 29C3, le Chaos Computer Congress, qui aura lieu à la fin du mois à Hambourg. Le programme est toujours pas sorti, donc on n'en parlera pas. Juste rapidement, il y aura IO Error, donc c'est un des participants au Tor Project, un réseau anonymisé sur internet, un logiciel qui permet de. D'anonymiser son utilisation d'Internet, qui fera la keynote d'ouverture du festival.
Qui a déjà un peu de bouteille, c'est pas tout récent.
Oui, il y a beaucoup d'utilisation, surtout les dernières années, là où certains pays essayent de contrôler un peu tout ce qui se passe sur leur réseau. Du coup, ce logiciel permet d'éviter tout compte, enfin de passer un peu à côté des contrôles gouvernementaux dans les pays en guerre, comme la Syrie, au Bahreïn ou la Chine. Donc lui, Notre-Dame-des-Landes. Donc lui, il fera la keynote d'ouverture. On en reparlera dans l'agenda à la fin. Et autre news sur l'Allemagne. Alors c'est RetroShare, un logiciel de peer-to-peer qui existe depuis 5 ans, mais qui les derniers mois a été une utilisation 10 fois plus forte, a récupéré 10 fois plus d'utilisateurs. Donc basiquement c'est comme n'importe quel logiciel peer-to-peer, sauf que on s'échange des clés GPG pour être sûr que les amis avec qui on échange des logiciels soient vos amis que vous avez choisis.
D'accord, c'est donc, pas Adopi quoi.
C'est pas Adopi. Donc c'est tout crypté et le trafic est crypté et les seuls gens qui peuvent voir vos fichiers sont les gens à qui vous avez accordé l'accès à vos fichiers.
D'accord.
Donc avec de la cryptographie un peu plus solide que n'importe quel logiciel qui existait avant. Donc on peut pas faire ce genre de truc sur BitTorrent pour l'instant, on peut pas faire ce genre de truc sur Gnutella ou comment ça s'appelle l'autre
Emule,
ouais. Quelqu'un s'est fait avoir en Allemagne parce que on pourrait avec ce logiciel faire des points de sortie, c'est-à-dire là c'est bien parce qu'on peut partager avec ses amis tout ça, sauf qu'on peut aussi choisir d'ouvrir son logiciel pour que les amis qui sont connectés sur votre réseau puissent sortir par votre ordinateur pour accéder à l'internet normal, c'est-à-dire récupérer des fichiers sur d'autres réseaux qui sont moins privés.
D'accord.
Et donc cette personne a ouvert son ordinateur pour les gens qui utilisaient sa connexion RetroShare. Et probablement d'autres personnes ont téléchargé des fichiers copyrightés, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et donc une cour en Allemagne a décidé a condamné cette personne. Et a priori l'utilisation de RetroShare serait dommageable, c'est-à-dire une des options de ce logiciel permettrait une des options de ce logiciel serait assez dangereuse par rapport à l'utilisation vraiment du réseau de peer-to-peer. Donc faut faire attention comment on configure ce logiciel là. Donc le côté intéressant c'est qu'on peut l'utiliser facilement et qu'il n'y a pas de danger si on n'utilise pas cette option. L'inconvénient c'est que si on veut partager un peu plus sa connexion et qu'on utilise cette option, c'est un peu comme sur le réseau Tor quand on dit qu'on est un nœud de sortie sur le réseau Tor. C'est-à-dire que tout le trafic du réseau Tor en général ça reste sur le réseau Tor, mais à un moment il faut sortir pour accéder au site public, genre tetalab.org. Si on veut y accéder par le réseau Tor, il faut que quelqu'un sur le réseau puisse faire un point de sortie. Donc là ça marche pareil avec ce logiciel de peer-to-peer. Si on veut accéder à un fichier d'un autre réseau peer-to-peer, il faut que quelqu'un fasse un point de sortie. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on peut se faire avoir.
Okay. Et le point de sortie est du coup plus sensible, enfin capable de, d'être voilà, donc, sensible, enfin susceptible d'être
donc c'est
reconnu. Quoi.
Toujours le problème de la sécurité des connexions, comme dans Adopi, où en gros Adopi on se fait avoir parce qu'on n'a pas réussi à sécuriser son réseau. Donc il suffit de. Si vous partagez votre réseau en colocation et que votre colocataire utilise un réseau peer-to-peer public et que votre ligne se fait flaguer, c'est que vous n'avez pas réussi à sécuriser votre réseau pour que votre colocataire n'arrive pas à utiliser de réseau peer-to-peer. C'est un peu la même chose avec ce type de logiciel. C'est si vous n'avez pas réussi à bien sécuriser l'utilisation du logiciel,
ça sert à rien, du coup.
Ça sert à rien. Et donc c'est toujours sur le phénomène de la peur où attention, ayez peur parce que ce logiciel, vous allez avoir des problèmes. Alors que finalement, c'est plus pour une ouverture du partage et autre chose. D'accord. Donc c'est toujours l'effet Streisand où quand quelqu'un dit qu'un logiciel est interdit, il y a tout le monde qui va s'y intéresser parce qu'il y a sûrement quelques avantages à l'utiliser. Comparé à, aux logiciels qui ne sont pas interdits et qui ne permettent pas de faire ce genre de trucs.
Oui, une solution, ce serait qu'il y ait de plus en plus de monde en fait, qui s'en servent pour pouvoir rester en circuit un peu.
Carrément. Et c'est ce qui est en train de se passer, surtout en Allemagne. Et j'ai commencé à regarder un peu le logiciel, c'est assez intéressant parce que c'est la crypto un peu basique, donc c'est des trucs assez compliqués à mettre en place si on veut tout faire à la ligne de commande. Mettre en place des trousseaux de clés GPG et tout ça, et dire à vos amis de faire pareil, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, avec du clic et de l'envoi d'email, ça passe assez vite pour créer un réseau entre potes sans que personne puisse y faire quelque chose. Donc ça s'appelle RetroShare. Je vous conseille d'aller voir ce qui se passe là-bas.
Ok. Ouais, l'info, c'est un peu... Je m'en rappelais plus. Oui, la Syrie. La Syrie, ils avaient été coupés... Ils avaient internet qui avait été coupé comme en Égypte quoi. Donc là apparemment c'est revenu. Pendant ce temps il y avait Telecomix, un groupe de activistes qui sont un peu de partout, qui avait mis en place des lignes téléphoniques.
Des GSM.
Ou des lignes d'appel pour qui basculaient sur internet.
Comme les vieux modems 56K des.
Voilà,
il y a 10 ans.
Histoire qu'il y ait un minimum d'ouverture. Et en fait, ouais, quand ils ont remis internet, le gouvernement a dit que c'était un problème technique. Mais bon, enfin, je sais pas. Enfin, c'est comme si c'était c'était quoi, Israël qui avait été coupé d'internet parce qu'il y avait une grand-mère qui avait décidé qui avait coupé le câble avec une pioche.
C'était en Europe centrale, ça. C'était
ouais, je sais plus. Il y avait une grand-mère qui avait voulu faire un trou pour cacher je sais plus quoi. Elle avait sectionné le câble.
Ça ressemble à ça. Ouais.
Donc voilà, le gouvernement a dit aussi que c'était la faute aux opposants, ce qui est pas très crédible puisque les opposants ont besoin d'internet pour justement alerter le monde entier sur ce qui arrive là-bas.
Il y avait une grosse peur sur l'utilisation de la coupure information pour lancer une grosse opération de massacre.
Ouais.
Ce qu'avait fait en 82, je crois, sur la Syrie, ils avaient fait pareil, ils avaient fait un blocus d'information pour faire le massacre de Hama, je crois, je sais plus comment ça s'appelle.
Peut-être.
Bref, il y a eu un gros massacre en 82 et il y avait eu un blocus d'information juste une semaine avant.
Ouais, pour être tranquille.
Pour être tranquille, ouais.
Pour rebondir sur ça, oui, Google chaque année en fait il fait un rapport de transparence sur toutes les demandes de retrait de données qu'il a. Donc l'année dernière j'en avais déjà parlé et là j'en reparle parce qu'en fait ces demandes qui émanent de gouvernements ou de particuliers ou de services de justice, tout ça, ils ont augmenté de 10% en 2012. Et ça a augmenté en quantité, mais aussi sur le nombre de personnes visées. Donc cette année, chapeau, on est quatrième plus gros demandeur au monde, après les États-Unis, l'Inde et le Brésil. Et on est même devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Donc faut savoir que Google va analyser chaque demande qu'elle reçoit. Donc ça peut être une demande d'information sur un utilisateur ou ça peut être une demande pour retirer du contenu. Et donc en fait elle en a satisfait que 42% des demandes françaises. Donc il y a des demandes qui ne devaient pas être légitimes. Comme par exemple, il dit « Nous avons reçu une demande des représentants légaux d'une ancienne personnalité politique exigeant le retrait d'un poste de blog qui aurait exposé ses relations avec le lobby pharmaceutique et serait par conséquent diffamatoire. » Donc bon, il y en a des anciens politicards qui doivent bien s'en servir pour essayer de se cacher un peu. Et surtout, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que au niveau français, c'est pas les services de justice qui font le plus de demandes, donc c'est-à-dire après un jugement, tout ça. C'est surtout les services de police qui font les demandes. Donc alors, après, on sait pas, mais bon, eux, ils ont pas à demander que ça, du contenu soit retiré sans passer par la justice. Enfin, bref, voilà. Puis bon, vu qu'on a eu l'OPSI 2, maintenant, normalement, le ministère de l'Intérieur peut blacklister n'importe quel site sans avoir besoin de passer par une décision de justice. Donc il l'avait fait avec Copwatch. Mmh. Ouais, il l'avait fait. Donc bon, il y en a peut-être d'autres qui sont passés, hein, qu'on s'en est pas encore rendu compte. Comme ça a pu être le cas aussi en Australie, où ils avaient fait la même chose, ils sont revenus en arrière, parce que quand on a pris la liste des sites blacklistés, ils se sont aperçus qu'il y avait des tours opérateurs, des opposants politiques, tout ça, quoi. Donc oui, nous, depuis l'OPSI 2, on peut blacklister des sites en France, et la liste n'est pas accessible. Et on peut, même si la liste était accessible, ils ont bien bétonné le truc pour ne pas avoir un recours sur la liste avant un truc comme 5 ou 10 ans. Enfin bref, n'importe quoi. On marche sur la tête comme d'habitude, quoi.
Il y a eu une affaire de blocage cette semaine aussi en Angleterre avec Promobay, donc la plateforme promotionnelle de Pirate Bay. Ouais. Ils avaient lancé il y a quelques mois une possibilité pour les artistes de faire leur promotion sur Pirate Bay. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, il y a le logo Pirate Bay qui est remplacé par le logo de l'artiste. Et donc ils ont fait un site à part parce qu'il y a eu plusieurs milliers de demandes de la part de plusieurs milliers d'artistes autour du monde. Et donc ça s'appelle Promobay. Ce site a été bloqué cette semaine sur Internet sur un des fournisseurs d'accès en Angleterre. Et ils ont un peu le même mécanisme avec une liste inaccessible. Et quand il y a un site qui se fait couper, il n'y a personne qui sait pourquoi. Donc,
D'accord. Bon. On se fait une petite coupure et après on revient sur l'actu.
C'est parti.
Thank you.
Alors c'est quoi qu'on vient d'écouter?
Je sais pas, Alex.
C'est quoi? Alors c'est, ça s'appelle, excusez-moi deux secondes, ça s'appelle Overwork, Daybreak, donc c'est la chanson qui a été utilisée pour la nouvelle promotion de la GoPro 3.
D'accord, la caméra de Mera.
Voilà, attends, il y avait la version toulousaine de la GoPro.
Voilà, ouais. Ouais, et aussi, oui, sur le générique, le choix du générique aujourd'hui, c'était le générique de Double Dragon.
Le premier stage sur NES.
Voilà, mais aucun rapport avec l'émission, en fait.
Comme on dit deux, peut-être.
Ça ouais, fait... on va se marrer à la fin. Donc, c'était quoi le... J'étais où? Vous voyez, moi, j'avais une info totalement pourrie. Le SMS a 20 ans. Voilà.
Incroyable.
Voilà. Et ouais. Juste, en fait, ils ont été super étonnés quand ils ont lancé le SMS que ça soit utilisé. C'est le plus gros moyen de communication télé, après le téléphone.
Surtout que c'est un petit hack du truc. C'est un...
Ouais, à l'époque, en fait, les opérateurs s'en servaient pour envoyer des commandes au téléphone ou envoyer des infos aux utilisateurs. Et
voilà, ça a pris.
Et ils se sont bien. Ils se sont fait beaucoup de sous dessus aussi parce qu'à l'époque, maintenant ça va mieux, mais à l'époque, ça coûtait cher d'envoyer des SMS. Enfin, par rapport à ce que ça coûte 0,00017 centimes, s'envoyer.
C'est le gros succès marketing des 20 dernières années, je pense, en termes de profit.
Ça a signé la mort des tam-tam et autres beepers.
Ouais, c'est pas mal, c'était le truc...
C'était rigolo, ça.
Fallait que t'ailles à la cabine téléphonique et tout pour écouter le message. C'était un peu la... Ouais, enfin bref. Si t'étais médecin, t'en avais besoin, mais bon, enfin, quand t'étais
et on avait une dernière actualité, c'est Ingress.
Oui, donc, Ingress.
Ingress, c'est un jeu de... Comment on appelle ça? De réalité augmentée.
Ouais, de Google.
De Google, ouais. Donc c'est un jeu basé sur Google Maps.
Qui tourne sur Android.
Qui tourne sur Android, donc je sais pas si vous connaissez Foursquare. Donc Foursquare, c'est une espèce de plateforme un peu la Twitter où on va dans des bars et on dit qu'on est dans le bar et du coup quand on va dans le bar souvent on devient maire du bar. Ingress c'est un peu le même type de jeu mais avec une couche cyberpunk, un peu science-fiction où on se balade en ville dans la couche science-fiction donc on voit sur son combiné téléphonique Android une surcouche de la ville avec le mode science-fiction et il y a des petits modules à ramasser pour avoir des points. Et il y a aussi des portails dans le jeu.
Il ouais, y a une histoire d'énergie qui se déverse des portails et soit tu es une équipe qui accepte cette énergie et qui veut lui réutiliser, soit une contre cette énergie. Quoi.
Voilà, et donc il faut essayer de capturer le portail et donc les gens de ton équipe... Tu fais des connexions sur les portails avec les gens de ton équipe.
Ouais.
Donc à Toulouse par exemple, il y a des portails sur un peu tous les monuments historiques et du coup on peut connecter le pont Neuf à Saint-Pierre et du coup ça fait une zone pour ton équipe et il y a l'autre équipe qui essaye de faire des zones pareilles. Enfin ça ressemble un peu à du Go, enfin au jeu Go, au jeu de plateau. Tu essaies d'encercler les trucs et ça marche au niveau mondial donc tu peux faire des portails à 70 km tu peux connecter des portails à 70 km de distance et du coup récupérer toute la zone pour ton équipe.
D'accord, et ça fait un peu bouger aussi, c'est ça un peu la nouveauté.
Voilà, donc
t'es obligé de bouger pour jouer quoi.
Ouais, faut se déplacer. Il y en a qui ont essayé en avion, je crois. Il y en a qui ont essayé de pirater le jeu en injectant des fausses données GPS dans le téléphone, c'est ce qui est assez simple à faire finalement. Et ça marche pas mal, donc un peu comme Gmail à l'époque, ils font ça en mode bêta fermé, donc on peut pas accéder au jeu sans un code d'invitation, donc ce qui fait un peu pousser des boutons à tous ceux qui veulent jouer, qui essayent à tout prix d'avoir un code le plus rapidement possible.
Donc, ouais, donc il faut aller sur le site, s'inscrire son mail, et puis on reçoit, moi je l'ai toujours pas reçu, heureusement que tu m'en as donné un, mais je l'ai pas reçu. Donc et... c'est Ingress, I-N-G-R-E-2-S.
Voilà, et c'est un bon plan pour Google, je pense, pour rapatrier pas mal de données aussi sur l'utilisation mobile et géopositionnée des utilisateurs dans ce jeu.
Tu crois qu'ils auraient fait ça comme pour les voitures de Street View qui sniffaient le Wi-Fi pour...
Je pense qu'ils s'en servent, oui, pour récupérer des données.
C'est des malins chez Google.
Ouais, bah, c'est bien de... Enfin, c'est bien. Ils savent comment récupérer ces genres de données sans que ça soit chiant. Quoi.
C'est comme la CAPTCHA. Ouais, okay. le CAPTCHA, quand tu le truc où pour savoir si t'es vraiment un être humain. T'as un mot à recopier.
Oui, CAPTCHA, oui.
En général, Google a racheté cette société.
Ah, oui.
En général, t'as deux mots. Il y en a un qui est vachement mal écrit. Et en général, il y a un deuxième qui est pas trop mal écrit. Et en fait, le premier mot sert à savoir si réellement tu es un être humain. Et le deuxième mot, en fait, c'est issu du scan des livres que font dans toutes les bibliothèques. Google Book, et en fait eux ils ont un algorithme pour chaque mot savoir à quoi il correspond, mais des fois il y a pas mieux que l'être humain pour reconnaître un mot, et en fait ils se servent du deuxième mot pour que toi tu
corriges l'orthographe,
l'orthographe. Et donc en fait une fois qu'il y en a plein qui ont corrigé qui ont le même mot, et ben ils se disent que ça y est, c'est le bon mot, et donc le truc est super malin.
Ouais.
Donc c'est du coworking, et je sais plus ce qu'il y avait, il y avait 4chan qui avait sorti un truc. En fait, 4chan, c'est un forum, c'est les bas-fonds d'Internet. C'est les pires. Eux, à chaque fois, ils mettaient un nom débile comme... je sais plus ce qu'ils avaient mis.
Oui, je sais. Ah,
c'est, un truc profond comme nazi ou un truc dans cette eau-là, quoi.
Des fois, c'est des marques aussi, les captcha. Notre utilisation mercantile.
Ouais.
Il y a Free, ouais, qui fait des captcha assez relous sur leur plateforme de téléchargement.
Ouais,
où tu es obligé de regarder une pub et de taper à la fin de la pub ce que t'as vu pendant la pub.
C'est horrible.
Ouais.
Juste pour revenir sur Ingress, du coup ça marche que avec Android et...
Que sur Android et qu'avec des téléphones mobiles.
Et je pense que ça marchera jamais sur iOS, sur iPhone.
Je pense que Google est plus trop pour...
Ouais, ils sont plus trop copains de toute façon.
Puis, ouais.
Ouais, d'ailleurs Google Maps ça marche plus sur iOS.
Il y a eu une histoire comme ça parce qu'il y a iOS qui a sorti pour leur dernière version leur propre, Apple a sorti son propre Maps. Ouais. Donc ça a été un peu la risée de tout le monde avec des trucs qui marchaient pas ou des îles au milieu de l'Atlantique qui n'existaient pas.
Cool.
Quand il y avait l'histoire entre la Chine et le Japon, ils avaient fait une île pour la Chine, une île pour le Japon, comme ça tout le monde était content.
Apple pour la paix dans le monde.
Et du coup, je crois qu'ils n'avaient pas adapté encore sur iOS 6 Google Maps. Peut-être que c'est revenu, mais bon, à la suivre.
Ouais, et sinon sur je reviens là, parce que on m'a envoyé une info sur Disney, là on parlait de Ralph et de leurs droits sur les personnages de jeux vidéo. En fait, ils ont contacté toutes les boîtes de jeux vidéo et ils leur ont demandé leur avis avant et savoir si ça leur plaisait avant d'en faire quelque chose, quoi. Donc apparemment il y aurait même pas d'argent en jeu,
plus du placement de produit que...
voilà, oui, les boîtes de jeux ont vu que c'était bon pour elles, quoi, de Qbert, Street Fighter, tout ça, ça parle toujours, c'est nostalgique, tout ça.
Personne qui a essayé de faire énormément de thunes en vendant la licence à Disney.
Ouais, voilà, puis bon, il y a tellement de personnages de jeux vidéo que s'il y en a qui refusent...
Il y en aura d'autres.
Ouais, il y en aura d'autres, quoi.
Bon, je rappelle qu'on peut aller sur canalsud.tetala.org, vous pouvez aller sur canalsud.tetala.org pour avoir les informations sur les liens duquel on parle en ce moment.
Ensuite, toi, tu avais un dossier sur un récap sur le Cablegate.
Ouais, voilà. Donc Cablegate, c'est un grand dossier qui a été sorti par Wikileaks il y a maintenant 2 ans. Donc c'était le 28 novembre, l'anniversaire des 2 ans du Cablegate. Donc un récapitulatif rapide. Cablegate, c'est probablement Bradley Manning, un soldat américain, qui était en mission en Irak dans les services d'intelligence et qui avait accès au réseau SIRPnet. Donc c'est le réseau d'échange de câbles diplomatiques entre les ambassades, entre un peu tous les sections américaines de diplomatie. Et il a, comme il s'ennuyait énormément là-bas, qui comprenait pas vraiment son intérêt dans cette guerre-là, il a commencé à stocker sur un disque dur de Britney Spears, je crois, sur un CD de Britney Spears, ou je sais plus, il y avait une histoire comme ça pour, quand il travaillait dans des locaux où il avait pas vraiment le droit d'apporter son disque dur ou sa clé USB. Donc il amenait son disque Britney Spears et pendant la journée il gravait tout ce qu'il voyait passer sur le réseau. Gravé sur ce disque. Donc il en est ressorti, il l'a envoyé sur internet à quelqu'un qu'il connaissait pas, probablement Julian Assange, qui fait partie de Wikileaks, et il a été intercepté, Il y a un autre hacker qui s'appelle Adrian Lameau qui par hasard, commençait à discuter avec lui, avec Bradley Manning sur Internet. Et Bradley Manning s'est confié à Adrian Lameau en pensant que c'était quelqu'un de bien et qu'il allait pas le vendre. Mais bon, Adrian Lameau, il s'est posé la question et il s'est dit peut-être qu'il faut que j'en parle au gouvernement ou au moins à l'armée pour leur dire qu'il y avait une fuite dans leur système. Et du coup, l'armée a pris les choses en main et a arrêté Bradley Manning quelques jours après, je pense.
Ouais, il vient de sortir, là, il a été jugé, il a été torturé.
En ce moment, il est jugé et donc c'est un gros point noir dans Wikileaks, enfin dans l'affaire des Cablegate, c'est que ce soldat américain est passé plusieurs centaines de jours, hein, je sais pas exactement le chiffre, attendez, je le retrouve. Bradley Manning a été en prison sans jugement pendant 920 jours, donc ce qui est un record pour les États-Unis.
À Guantanamo ?
Pas à Guantanamo, non, sur le sol américain et dans les prisons militaires. Donc, c'est pas les mêmes choses que les. Comment on appelle ceux qui sont à Guantanamo ?
C'était pas un prisonnier de guerre.
Ouais, voilà, c'est juste un soldat qui est en geôle, ouais. Je sais plus comment on appelle les soldats comme ça qu'on met.
À l'arrêt ?
Ouais, enfin, ouais, au trou, ouais.
Au trou.
Et donc il y a eu des rapports par des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui dit que ces conditions étaient au minimum cruelles, inhumaines et dégradantes en violation avec l'article 16 de la Convention contre la torture. Donc a priori les conditions dans lesquelles il était de la torture pratiquée par les militaires américains.
Privation de sommeil.
Privation de sommeil, avec des l'utilisation des méthodes anti-suicide pour les prisonniers. Enfin, par exemple, tous les 5 minutes, on lui demandait s'il était toujours en vie. Il était nu sur un lit en métal pendant plusieurs semaines et des choses comme ça. Cool. Voilà, des super trucs. Le Cablegate, ça continue depuis 2 ans. Si vous allez sur thisdayinwikileaks.org, vous avez tous les jours une liste un peu énorme de nouvelles concernant les différents dossiers de Wikileaks. Bon, il y a eu une grande victoire la semaine dernière avec la Commission européenne qui a documenté le blocage par Visa et Mastercard des donations à Wikileaks. Donc on peut plus faire, depuis la sortie des Cablegate, quelques semaines après, il y a eu des grosses attaques contre le site. Donc au début, le site était hébergé chez Amazon aux États-Unis avec leur plateforme d'hébergement de sites. Amazon a rapidement coupé l'hébergement de Wikileaks parce que c'était pas en accord avec leur contrat de vente.
Ils n'ont pas eu trop le choix, à mon avis.
Ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Et par rapport à Visa et Mastercard, pareil, ils ont coupé l'accès aux donations. Donc ce que Visa et Mastercard, normalement, ne peuvent pas faire dans leur contrat de vente. C'est-à-dire, on peut toujours donner de l'argent au Ku Klux Klan ou à d'autres trucs encore plus chelous. Sauf que Wikileaks, on peut pas. Donc la Commission européenne a lancé une enquête il y a quelques mois ou quelques années, je pense. Et la conclusion a été rendue la semaine dernière avec donc c'est le sénateur Lieberman et un membre du Congrès s'appelle Peter Teking qui ont directement influencé PayPal, Visa et Mastercard pour arrêter les transferts de dons à Wikileaks. Donc Wikileaks a perdu 95% de dons. Je crois que ça se calcule en millions de dollars. Alors, je ne suis plus exactement sûr du chiffre, mais je crois que c'est dans les 20 millions de dollars qu'ils ont perdu sur 2 ans, puisque du fait de l'affaire du Cablegate, ils avaient un support assez puissant de la population sur Terre, ou la population sur Internet, et donc personne ne pouvait, enfin personne, on pouvait très difficilement donner de l'argent à l'entreprise Wikileaks ou l'entité Wikileaks. Et donc la Commission européenne a commencé à taper sur Visa et Mastercard, qui avaient trouvé des excuses, et parmi les rapports que Visa et Mastercard avaient fournis, ils ont mis en cause directement ces politiciens américains. Donc dans les rapports, il y avait beaucoup de choses en noir, comme dans des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, mais ils avaient quand même laissé en clair l'implication de ces deux politiciens. Donc c'était intéressant. Et comme c'était les 2 ans, il y avait aussi, il y a eu pas mal de top 10 des révélations qui ont été faites par Wikileaks durant ces 2 dernières années, où des des conséquences que ça a eues. Donc j'ai récupéré sur Russian Today qui fait beaucoup de news par rapport à Wikileaks un top 10. Alors, en 10e position, il y avait, ça parlait de la corruption en Égypte sous Moubarak. Il y a quelques câbles qui parlaient de l'action qui ont été mise en place contre les blogueurs et les journalistes pour réduire les critiques contre Moubarak. Un autre truc, c'était le Syrian Gate, donc des documents liés à la Syrie et comment une entreprise avait mis en place des interceptions téléphoniques utilisées par la police militaire, enfin par la police et par les militaires. Donc pareil, ça on n'aurait pas pu le savoir si on n'avait pas vu, enfin si des diplomates américains n'avaient pas parlé entre eux et après on aurait pu le deviner, mais on ne l'aurait pas su tout de suite. Un autre document, c'est comment la Palestine était prête à un peu tout concéder à Israël sur le partage des territoires. Bien que c'est eu un petit peu une conséquence sur le pouvoir de la Palestine et les gens qui avaient un peu envie de que la Palestine soit plus forte, ça a montré aussi que Israël voulait tout ou rien, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment le choix de discuter quand ils mettaient en place des choses. Un autre document, c'est sur le... Enfin, pas document, mais une autre conséquence, c'était sur l'invasion des ambassades. Par exemple, quand Julian Assange est parti en Équateur, pendant ses réfugiés dans l'ambassade de l'Équateur, l'Angleterre a montré qu'ils étaient capacité d'envahir l'ambassade de l'Équateur, donc ce qui se fait pas trop normalement au niveau international. Quand il y a une ambassade, il n'y a pas d'envahissement de l'ambassade. Ou il y en a eu, mais je sais pas. Non.
Au Vietnam peut-être, mais pas depuis.
Ouais, Vietnam, là je viens de voir.
C'est une déclaration de guerre, enfin c'est censé être territoire équatorien.
Voilà. Pas en temps de paix quoi.
Enfin, après il y a des arrangements.
Et d'autres documents sur la violence au Mexique, donc tout ce qui se passait sur la guerre sur la drogue, la guerre contre la drogue, comment les cartels sont impliqués dans la police, l'armée et le gouvernement, et comment l'argent des narcos est directement injecté dans les élections municipales nationales et tout ça. Aussi pas mal de documents sur l'implication de Karzai en Afghanistan et les gros doutes que les Américains ont sur la politique de Karzai et ses implications aux narcotrafiquants afghans dans la région. Il y a aussi pas mal de choses sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM, avec un document de l'ambassade américaine à Paris qui explique comment Washington impose des traités d'échange économique aux différents pays pour pousser l'utilisation des OGM un peu partout dans le monde. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on peut retrouver dans les Cablegate Wikileaks. Et voilà, c'est assez intéressant, assez vaste. Et il en reste deux, c'est l'utilisation d'espions à l'ONU. Avec directement Hillary Clinton qui a demandé à ses diplomates à l'ONU de récolter le plus d'informations possible sur les autres diplomates de l'ONU, dont des informations biométriques. Donc on peut imaginer, je sais pas si vous savez, mais les présidents américains, quand ils vont faire caca à l'étranger, il y a les agents secrets qui récupèrent leur caca pour éviter que ça tombe dans les égouts et qu'il y ait des espions qui... Ils transportent leurs toilettes à l'étranger pour pas que les agents secrets étrangers puissent faire des analyses.
C'est vrai, ça.
Ça c'est vrai.
Mais d'accord. Pour, je sais pas, des trucs ADN ou...
Oui, des trucs ADN pour savoir s'il est malade, et choses comme ça. Et le top 1 pour l'annonce de Wikileaks, c'était Collateral Murder. Donc vous avez probablement vu cette vidéo d'un hélicoptère qui tire sur des gens en Irak. Donc c'est la plus grosse probablement vidéo des dernières années sur le journalisme irakien, où en gros c'est comme un jeu vidéo avec les soldats qui tirent en regardant leur écran sur des personnages qui bougent à l'écran, et c'est très lié aussi au journalisme. Il y a eu une affaire il y a quelques années avec les Américains qui avaient tué des journalistes en Irak. C'était un peu passé sous le tapis, et grâce à cette vidéo ça a pu permettre de remonter un peu ce qui a pu se passer, dans quelles conditions les soldats américains sont quand ils tirent sur des civils irakiens. Et voilà. Et deux bouquins que je peux vous conseiller si vous êtes un peu anglophone pour comprendre tout ce qui se passe sur, dans le domaine Wikileaks et dans la, les cryptographies cyberpunk et tout ça. Donc il y a This Machine Kills Secrets de Andy Greenberg, un journaliste à Forbes. C'est l'histoire de cyberpunk depuis les années 80 et l'histoire des mégalics aussi. Donc avant Wikileaks, il y a eu un autre mégalique, s'appelait les journaux du Pentagone. Mmh. C'était sous... comment il s'appelle
Reagan.
Non, pendant le Vietnam.
Nixon,
ouais. Sous Nixon, quelqu'un un peu pareil qui bossait au Pentagone et qui avait commencé à avoir des convictions anti-guerre. Et qui a passé des mois à photocopier des documents avant de les envoyer à des journalistes au New York Times et des journalistes un peu partout aux États-Unis, qui a failli passer aussi la peine de mort, parce que ça se fait pas. Et finalement, c'est à...
C'est la gorge profonde.
Si, c'est gorge profonde, ouais. Alors je me souviens plus de son nom, il a un nom un peu pas très dur, mais je me souviens plus du tout. Et voilà, donc il y a toute une partie sur ce leak là et sur le leak de Wikileaks, sur le leak de Wikileaks et sur tout ce que est le mouvement cypherpunk et la crypto-anarchie, de toute l'utilisation de la cryptographie pour se libérer du monde de la surveillance. Et un autre bouquin qui vient de sortir aussi cette semaine s'appelle Cypherpunk. Donc c'est l'interview de Julian Assange quand il faisait des émissions sur Russian Today. Donc vous pouvez toujours voir les émissions en ligne, c'est sur assange.rt.com. Et c'est une continuité de l'interview en forme de livre avec Jacob Applebaum, qui est membre du projet Tor Project, on en a parlé tout à l'heure, Jérémy Zimmerman et Andy, qui fait partie de la Quadrature du Net en France, et Andy Müller-Magum, qui fait partie du CCC en Allemagne. Et ils font toute une interview pendant plusieurs heures sur des sujets comme la surveillance, la cryptographie, l'utilisation de la cryptographie, les leaks et bref, tout plein de choses sur les secrets et tout ça.
Et tout ça en anglais.
Tout ça en anglais, ouais. Et très intéressant si vous avez un peu de temps à lire pendant les vacances.
Est-ce qu'on a le temps ? Il en reste 10 minutes. Alors sur les 10 minutes que reste, bon, alors je vais aller très rapide. Ça, je voulais parler de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, c'est considéré, je me trompe pas, comme le plus grand hacker ou le plus grand pirate de l'histoire, ou du moins ça a été un des premiers. Donc petite biographie de Kevin Mitnick. Donc Kevin Mitnick, il est né le 6 août 1963 en Californie. Il a eu des parents divorcés et il a vécu à San Fernando, qui est à côté de Los Angeles. Donc lui, il a commencé très tôt, quoi. Donc lui, il prenait le bus pour aller à l'école, pour se balader, tout ça. Et très vite, il a compris que le système de tickets reposait sur un poinçon particulier. Et donc il est arrivé, en parlementant avec le chauffeur de bus, à savoir où se procurerait ce fameux poinçon pour l'acheter. Et ensuite, il a trouvé des tickets vierges et il pouvait se déplacer autant qu'il voulait, quoi. Et c'est un gars qui a une mémoire de dingue, parce qu'en fait j'ai un peu lu sa biographie et il avait mémorisé tous les horaires de bus de Los Angeles par ligne, parce qu'il y avait une histoire d'horaire et de ligne pour le poinçon, enfin bref. Et il explique aussi qu'en fait tous les numéros qu'il a pris dans sa vie de téléphone, tous les numéros téléphoniques qu'il a pris, il s'en souvient, même ceux quand il était gamin, quoi. Donc le gars a vraiment une bonne mémoire. Bon, il a piraté un peu les horaires de bus, mais la première fois où il a vraiment piraté quelque chose, ça a commencé par le piratage des systèmes téléphoniques. À l'époque, bon, il n'y avait pas trop Internet, donc ça tournait surtout sur ce qui était téléphone, ce qu'on appelle le phone phreaking. Et là, avec ses amis au collège, il commençait à apprendre avec ses amis à comment passer des appels gratuits en appelant certains numéros, ou avoir des informations sur les clients de la compagnie de téléphone. Mais bon, là, comme il est au collège, lui, c'est plus des blagues potaches. Donc, en général, il change le service d'une ligne d'un particulier et il le fait basculer sur un service de cabine téléphonique. Donc, quand la personne veut téléphoner, elle se retrouve, on lui demande de mettre des pièces pour continuer à téléphoner. Ou il répond au client qui appelle l'opérateur téléphonique et il leur dit est-ce que vous êtes blanche ou noire ? Parce que nous, on tient deux répertoires distincts. Ça reste des blagues potaches, quoi, à ce temps-là. Mais c'est là qu'en fait, lui, il va commencer à développer ce qu'il va appeler l'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, on va voir un peu plus tard en quoi ça consiste. Donc, ensuite, il va au lycée à Los Angeles. Et là, déjà, il commence bien parce qu'il s'infiltre dans le système de son lycée, forcément. Et là, il se fait attraper. Et là, on lui demande soit tu nous aides à combler les failles, soit tu es viré. Donc lui, il est pas bête, il les aide à combler les failles parce qu'en fait, les ingénieurs et les experts qu'il y avait sur le système de ce lycée, ils n'ont pas réussi à combler les failles eux-mêmes et à trouver la faille. Donc il sort du lycée grâce à ça et avec en plus les honneurs, et je crois quand même qu'il a eu une mention où il était major de sa promo, enfin bref. Et c'est au lycée là qu'il va rejoindre un groupe de hackers. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de connaître les choses. Et ce groupe de hackers, lui, a plein de connaissances. Et donc, il leur dit, moi, je veux rentrer. Mais ils lui disent, bah, écoute, nous, on te veut bien dans notre groupe. Si tu arrives à rentrer dans l'Arche, qui est un système en fait d'une société, et si tu arrives à y rentrer et à piquer les sources de leur système. Alors lui, il se demande pas, il dit ok parce qu'il a très envie d'apprendre de ces gens là et en fait lui c'est un pirate un peu particulier parce que lui il se dit bon, je vais pas passer mon temps à apprendre la technique et à essayer de trouver la moindre faille, je vais faire ce qu'il appelle lui l'ingénierie sociale. C'est en fait lui, pour y arriver dans cet exemple là, il se fait passer pour Anton Chernoff, un des plus gros développeurs du système, et il appelle l'administrateur et lui dit je suis Anton Chernoff, j'ai perdu mes mots de passe de mes comptes sans dire lesquels, est-ce que tu peux me les donner? Et en fait il a toujours fait comme ça, il est tellement convaincant au téléphone que le gars, en toute bonne foi, lui donne les comptes. Donc il lui donne le nom du compte et lui donne le mot de passe. Et pour l'anecdote, en fait, lui, ça le fait rire parce que le mot de passe, c'est bouffon. Et donc il se dit, ouais, bah, le gars, quand il va voir ça, c'est lui le bouffon, quoi. Et donc c'est là, en fait, il revient voir son groupe de hackers, ils y croient pas, et hop, il accède au système. Et en fait, pendant qu'il accède au système, ses amis, entre guillemets, hackers, qui sont connectés sur un autre PC aussi, avec le même compte, téléchargent toutes les sources du logiciel. Et une fois qu'ils l'ont fait, en fait, ils dénoncent à la police. Et à ce niveau-là, c'est un mec qui est vachement persuasif et qui arrive à tromper les gens, mais il a vachement fait confiance aux gens, et souvent trop, et il s'est fait beaucoup avoir par les gens, quoi. Donc, à ce niveau-là... Pardon. Il va aller 8 mois en prison.
Ah oui, déjà.
Oui, non, il a fait beaucoup. Il a bien aimé ça, lui. Donc là, il en sort, il se dit, je vais me ranger un peu. Donc il travaille comme programmeur dans une agence publicitaire. Puis après, il revient à San Fernando. Et là, il décide d'être détective privé. Donc pour être détective privé, lui, c'est parfait. Donc il rentre dans les systèmes. Et il arrive à pirater des données, à trouver des données. Sauf que là, en fait, ces intrusions, le FBI arrive à voir qu'il a fait des intrusions. Et donc, ils font comment ça s'appelle, une perquisition chez lui. Mais lui, il a foutu le camp. Et donc, lui, en fait, pendant plusieurs années, il va rentrer dans la clandestinité. Et c'est là, en fait... que sa légende naît, c'est qu'il y a un journaliste qui s'appelle John Markoff qui lui dit, écoute, moi je suis en train de faire un livre sur les hackers, j'aimerais que tu en fasses partie et expliquer ta vie, mais en fait il lui propose pas de contrepartie financière. Et Kevin Mitnick il dit non, ben moi je vais pas faire un livre avec toi si tu j'ai aucune contrepartie. Et le gars lui dit, ben écoute, si tu le fais pas, moi je raconte que des bobards. et je raconterai que ce qu'on m'a dit. Et lui dit, bah, tu fais ce que tu veux. Et en fait, c'est là où John Markoff va sortir un livre qui a été très connu et qui lui a fait beaucoup de mal parce qu'il l'a fait passer pour l'ennemi public numéro un. Et surtout, il a mis en fait son article en une du New York Times. Et donc là, en fait, lui, il est devenu un des premiers programmeurs, quoi, développeurs, informaticiens, ennemi public numéro un aux États-Unis. Donc là, il a tout. Là, il a tous les États-Unis sur le dos. Et d'ailleurs, oui, John Markoff, lui, sera fait une fortune grâce à son livre et grâce à l'histoire de Kevin Mitnick, parce qu'après, ils ont fait un film et tout. Donc, je vais en venir après. Il y a l'épisode de comment il s'appelle, Tsutomu Chimomura, qui en fait, lui, a écrit aussi un livre retraçant en fait son affrontement avec Kevin Mitnick. Ils en ont fait un film. Mais de ce que j'ai pu comprendre, en fait, ce film, il est vachement bien. Il s'appelle Cybertrack. Il est sorti en 2001. Moi, j'ai bien aimé. Je m'étais dit, je vais me baser sur ça. Mais c'est du bullshit, quoi. En fait, le gars, Tsutomu Shimomura, ça a été un peu une querelle d'ego entre lui et Mitnick. Et donc,
mais il s'est fait avoir, quoi.
Ouais, il s'est fait avoir. Donc, en fait, Tsutomu Shimomura, il faisait des conférences sur la sécurité, sur la téléphonie.
Il était chef de sécurité d'une grosse boîte aussi.
Ouais, voilà. Et en fait, Mitnick, il voit ça, il fait lui se la pète, attends, il connaît rien et tout, et donc il décide de pirater son ordinateur personnel.
Le défi, quoi.
Voilà, le défi. Là c'était guerre d'ego. Et donc, en fait, il attend le jour de Noël de 1994 pour être sûr qu'il n'y ait personne sur le réseau. Et en fait, par ce qu'on appelle du spoofing d'IP. Alors, spoofing d'IP, c'est en fait se faire passer pour une machine du réseau. Donc, il a intercepté les messages qui transitaient. Et il arrive en fait à rentrer sur la machine de Shimomura et à lui voler des infos personnelles. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'en fait, il y avait un système qui, à chaque connexion, envoyait un mail à un superviseur. Donc Shimomura, lui, il est au courant de ça. Donc il arrête en fait l'intrusion. Et donc là, c'est lui, Shimomura, il a dit non, il faut que je l'attrape. Et donc il va aider le FBI à le rechercher. Et donc là, ça a été.
Là, il est toujours en cavale, dans la clandestinité.
Ouais, il est dans la clandestinité. Mais en fait, de tout ce qu'il fait, il en retient pas beaucoup de bénéfices. Lui, son kiff, c'est vraiment de comprendre comment les systèmes marchent et d'arriver à s'introduire, quoi. Un peu le défi. Et donc voilà, Shimomura, il aide le FBI et en fait il essaie de retracer les appels que Kevin Mitnick fait. Mais Kevin Mitnick, lui, comme il est tellement fort, il arrive à rentrer dans les systèmes téléphoniques et il modifie le code source des gestionnaires téléphoniques pour en fait tracer sur différents réseaux. Donc à chaque fois le FBI arrive dans des lieux où lui il n'y est pas. Et en fait, Shimomura, il finit par trouver en fait dans quelle ville est Kevin Mitnick, donc à Raleigh. Et là, ils savent qu'il est dans la ville, mais ils savent pas où. Et là, pendant une semaine, en fait, Shimomura va se balader dans les rues avec une antenne, une espèce d'antenne râteau, pour en fait sniffer toutes les connexions. Et un matin, ben, le 15 février 95, ils arrivent enfin à l'avoir. Et le FBI l'arrête. Et là, lui, en fait, le FBI, en gros, lui a dit, écoute, soit tu confesses, soit sinon on va te faire la misère. Et donc et là, il prend 5 ans de... Il purge 5 ans. Et après, en sortant, il explique qu'il s'est un peu fait avoir parce que lui, en fait, ils ont dit qu'il avait causé des milliards et des milliards de dégâts, mais il a rien cassé. Il n'a jamais vendu les informations qu'il avait trouvées. Et en fait, là où ça a coûté cher, ça a été en fait les opérateurs pour trouver les failles et pour les réparer. Donc, ils ont dû prendre des experts, tout ça. Donc, forcément, ça coûte cher. Mais quelque part, s'il y a une faille, faut bien la combler, quoi. Et donc, du coup, après ça, lui, bah, il s'est rangé, il a arrêté et il a ouvert une société d'audit, de conseil, et il s'est spécialisé après aussi. Il a écrit des bouquins sur justement l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que dans les systèmes d'informatique, c'est pas souvent le système qui est le problème, c'est l'être humain qu'il y a derrière. Quoi. Et donc, en fait, lui, bah, c'est très simple, il téléphone les compagnies, il demande les mots de passe et on les lui donne. Voilà, et donc, oui, Tsutomu a écrit un livre et ce Cybertrack ça est adapté de ce livre de Tsutomu. Voilà pour la belle histoire de Kevin Mitnick.
On va peut-être faire une partie agenda rapidement avant de terminer.
Ouais.
Et donc, comme tous les semaines, il y a le Tétalab le mercredi soir à partir de 21h à Mixart Miris. Vous pouvez venir avec votre boisson favorite et continuer à discuter autour d'un verre avec nous sur les sujets que vous avez abordés. On parle d'Arduino aussi, on fait pas mal d'électronique, des bidouilles et tout ça. Ce week-end, il y a la soirée code au bikini avec une installation du Tétalab.
C'est pas très holistique ça.
Pas très holistique, non. avec une installation soirée code dubstep samedi au bikini avec une installation d'une borne d'arcade pour vous prendre en photo, donc c'est assez sympa.
D'accord, si vous avez,
c'est un photomaton, ouais. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le 29C3 à la fin du mois en Bourg, donc on essaie de faire, si vous êtes abonné à Magnitude Tétalab, vous recevrez sûrement des informations. On a rouvert le site tétalab.org avec un peu plus d'informations chaque semaine.
Oui.
Vous pouvez suivre un peu ce qui se passe et vous pouvez retrouver l'émission sur canalsud.tétalab.org si vous n'avez pas pu l'entendre, bien que. Enfin bref, et si vous voulez avoir plus d'informations sur les liens qu'on a partagés et continuer à découvrir un peu ce qui se passe sur Internet.
Eh ben, on vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Ça marche, merci les gars. Allez, c'est l'heure de finir ce magazine.